Bien, bonsoir à toutes et à tous. Ça fait plaisir de voir une salle remplie d'étudiantes, puisque le cycle L'humain recomposé, qui est donc pensé avec l'Université de Poitiers, le CHU de Poitiers et l'Espace Mendès France, a cette vocation de vous proposer, en particulier à vous, public étudiant, des conférences qui mêlent les différentes disciplines scientifiques pour une approche de l'humain recomposé, réparé. Voilà, donc on aura l'occasion de vous présenter peut-être la suite du programme. Je vous invite à le prendre, qui est à l'extérieur quand vous sortez. Sachez que les précédentes, pour la plupart du temps, la plupart des conférences sont disponibles sur la chaîne YouTube de l'Espace Mendès France. Donc si vous en avez, si vous voulez des séances de rattrapage, c'est tout à fait possible. Et donc je remercie par avance nos deux intervenants, mais je vais laisser le soin à Thierry Wey, et je remercie aussi Lydie Baudiou, qui sont les deux co-organisateurs de ce cycle. Et puis je te laisse la parole, Thierry, pour présenter nos deux intervenants.
Merci Héloïse. Bonsoir. Merci d'être venus nombreux pour cette présentation. C'est un plaisir d'accueillir Jade et Jean-Claude et Franck, qui reste assis là-bas, mais qui est là aussi avec nous, pour un sujet qui vraiment rentre pleinement dans le cycle de conférences de l'homme recomposé, de l'homme réparé, qui porte sur des lésions cutanées en lien avec les brûlures, effectivement, et en plus dans les âges pédiatriques, et qui constitue non seulement une lésion déjà relativement épouvantable en soi, et puis surtout aussi des lésions psychologiques qui peuvent suivre effectivement ces lésions extrêmement importantes. C'est un sujet en tout cas où Poitiers, le CHU et le laboratoire de Franck et de Jean-Claude sont vraiment en pointe, un domaine qui est particulièrement bien valorisé donc au niveau de notre communauté scientifique et particulièrement lisible. Et c'est un sujet en tout cas qui est vraiment de première importance, avec des aspects probablement pour d'autres pistes et d'autres développements pour trouver en fait des sources de tissus cutanés pour les enfants qui sont plus âgés, les adultes effectivement, les femmes naturellement, vu l'origine du tissu cutané qui est utilisé. Mais je vais vous laisser développer tout ça. Et merci encore pour être avec nous.
Bonjour à tous. Merci effectivement d'être venus si nombreux pour entendre cette conférence sur la greffe cellulaire chez les enfants brûlés, comme l'a dit Thierry, dans le cadre des conférences L'humain recomposé, dans le contexte de ces conférences de l'Espace Mendès France. Alors, vous avez ici mon collègue Jia Demchek, qui est professeur de chirurgie pédiatrique au CHU de Poitiers. Et vous le voyez partout sur les affiches à Poitiers, sur les bus, etc. Donc maintenant, il est très familier. Et je sais que vous êtes venu pour lui. Et donc, moi, je vais être relativement bref. Jihad est également chercheur au laboratoire LITEC. Donc, et c'est le début de l'histoire que je vais vous raconter. Et Thierry présentait Franck, qui est ici, qui est maintenant le directeur, qui a pris la suite de la direction du laboratoire LITEC depuis 4 ans. Et donc, moi, je suis biologiste à l'hôpital, donc j'ai une activité, je suis responsable du laboratoire d'immunologie. Et vous allez me dire, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je vous raconte cette histoire? Quelle légitimité j'ai à vous parler de greffe cellulaire chez les enfants brûlés? Eh bien, je ne sais pas trop, vous me direz peut-être après. Mais en fait, l'histoire que je veux vous raconter aujourd'hui, c'est que finalement, on n'y est pas venu comme ça à ces greffes de cellules chez les enfants brûlés. Ça a commencé par le travail que l'on fait dans ce laboratoire LITEC, laboratoire inflammation, tissus épithéliaux et cytokines de l'Université de Poitiers, qui est un laboratoire de recherche. Et dans ce laboratoire, on s'intéresse donc à l'inflammation cutanée en général et dans différentes pathologies. Et vous allez voir, et c'est encore une fois l'objet de cet exposé, comment de ce travail, finalement, on en est arrivé à envisager des protocoles de greffe chez les enfants brûlés. Et c'est une chose que les Anglo-Saxons aiment bien, connaissent bien, et dans notre milieu, on parle de « from bench to the bedside », c'est-à-dire de la paillasse, du travail fondamental, vers le lit du malade. Et je crois qu'on en a profité, on a décidé avec Jihad de le présenter comme ça, d'introduire comme ça, pour que vous sachiez que finalement, les histoires, ça ne se fait pas simplement, ça ne tombe pas du ciel, ça se mûrit, il y a tout un travail intellectuel qui se fait pour arriver à ça. Et vous voyez que ce n'est pas nouveau, puisque Pasteur disait que le hasard ne sourit qu'aux esprits bien préparés. Alors, je vais quand même vous raconter des choses un petit peu barbares. Pardon, le micro plus près, d'accord. Comme je vous disais, notre fonds de commerce depuis une petite vingtaine d'années au LITEC, c'est les cytokines dans la peau inflammatoire. Alors, déjà les cytokines, je vais vous en dire un tout petit mot. Vous savez ce que c'est, à part ceux qui... Toi, tu sais, oui, mais... Donc, les cytokines, c'est, pour faire très simple, je peux vous en écrire 50 pages, mais je peux faire court aussi. C'est les hormones du système immunitaire et inflammatoire. Mais vous en avez entendu parler récemment. Avant, personne ne connaissait, mais vous avez entendu parler de l'orage cytokinique. Ça vous dit quelque chose? Non, ça ne vous dit rien. Pourtant, là, dans Paris Match, non, aujourd'hui, madame, vous l'avez vu depuis quelques années, cet orage cytokinique qui est associé à ces patients qui sont en réa avec le Covid. Et ce n'est pas le virus par lui-même qui va être délétère chez ces patients, c'est justement ces cytokines qui vont avoir un rôle extrêmement toxique. Mais ça ne fait pas que ça. Hein. Et vous voyez, ça joue un rôle extrêmement important dans la défense. Alors, dans le Covid, ça marche trop bien, et là, ça éclate tout, mais là, ça joue un rôle très, très, très subtil. Et donc, nous, ce que l'on fait au laboratoire, c'est qu'on étudie les agresseurs de la peau, donc tout un tas d'agresseurs qui peuvent être des bactéries, des virus, un coup de marteau sur le doigt, le feu, les UV, etc., et leur action sur les kératinocytes. Alors, les kératinocytes, on en reparlera aussi, puisque c'est les fameuses cellules que Jihad va greffer. Ce sont les cellules qui composent l'épiderme. Okay. Et je vous ai, ici, vous avez une coupe de l'épiderme avec les cellules basales qui vont proliférer jusqu'à la couche cornée, que vous connaissez tous, hein, sur la peau, et qui vont se différencier. Et quand la peau est agressée, quel que soit l'agresseur, eh bien, vous allez avoir une induction de ces facteurs, recrutement de cellules immunitaires, et puis un cercle vicieux qui va se faire et qui va engendrer une inflammation. Et puis, ça, c'est un phénomène normal. Hein. L'inflammation, c'est pas mal, c'est quelque chose de bien, c'est un phénomène positif. Alors, quand ça se dérègle, c'est pas bien, mais en principe, faut que c'est extrêmement important que ce soit là. Et donc, mince, ces cytokines vont jouer un rôle dans le maintien de cette inflammation, mais aussi dans la différenciation de ces kératinocytes, encore une fois, les cellules de la peau. Voilà, donc je ne vous embête pas plus longtemps avec ça. Donc, dans le contexte de tout ça, eh ben, on a fait un certain nombre de travaux. Ça, c'est un résumé de quelques publications. Là aussi, on ne va pas rentrer dans les détails de tout ça, mais pour vous dire qu'on a montré que ces cytokines avaient un rôle absolument central dans les pathologies cutanées, dans le psoriasis en particulier. On s'est beaucoup intéressé au psoriasis, à la dermatite atopique, joue un rôle dans la cicatrisation. Et également, plus récemment, ces cytokines jouent un rôle aussi dans le développement des tumeurs cutanées. Voilà. Donc ça, c'est encore une fois, je vous disais, c'est un travail de longue haleine. Pour certains de ces travaux, d'ailleurs, qui ont abouti à des potentialités thérapeutiques de biothérapie dans ces maladies inflammatoires cutanées, ça, c'est une chose. Donc, par ailleurs, Mais on a montré ça dans des modèles, de maladies, avec des contacts étroits avec nos collègues du CHU, mais aussi en laboratoire de recherche. Ben, on travaille sur des cellules, on travaille in vitro sur des kératinocytes. Et là aussi, on a montré qu'un certain nombre de cytokines sont extrêmement importantes pour développer cette activité. Et en particulier, il y en a une qu'on aime beaucoup au laboratoire, qui s'appelle l'IL-22, et on a montré qu'elle ciblait ces cellules. Et on était très fiers, puisque c'est finalement notre papier, notre article principal, parce qu'on publie des articles en anglais pour présenter nos travaux. Eh bien, on a fait la couverture du journal américain d'immunologie avec cette photo. Bon, ça n'arrive pas 50 fois dans la vie, donc je suis content de le montrer. Je suis d'autant plus content de le montrer que finalement, on va y revenir avec cette photo, parce que là aussi, c'est au centre du travail qui a abouti finalement à ces greffes que l'on a pu faire par la suite avec Jihad. Alors, OK, je vous dis qu'on travaille in vitro sur des kératinocytes, donc, quel type de kératinocytes on peut utiliser? Eh bien, soit on peut utiliser les lignées cellulaires, mais ce n'est pas terrible, ça ne marche pas bien. Donc, l'idéal, c'est d'avoir des cellules fraîches. Donc, c'est souvent le cas quand on travaille in vitro, quel que soit le modèle. Alors, dans le sang, c'est plus facile de récupérer les cellules. Sur la peau, c'est un peu plus compliqué. Et donc, on fait appel à nos collègues chirurgiens, on a été tapé à leur porte. Et puis, on a été voir les chirurgiens plasticiens. Donc, on récupère des déchets d'abdominoplastie ou de plastie mammaire qui partent sinon à la poubelle. Alors, tout ça, je ne rentre pas dans les détails ici, mais c'est extrêmement contrôlé. Il y a des comités de protection des personnes. On fait pas n'importe quoi. Hein. Voilà, il faut bien comprendre ça. Et puis aussi, on récupère, et c'est là qu'on a été voir nos collègues chirurgiens pédiatres, pour récupérer des circoncisions, des tissus, donc des prépuces de petits garçons. Voilà. Et donc, ça, c'est les deux sources, finalement, faciles pour nous de tissus. Et donc, on ne s'est pas gêné. On récupère beaucoup de tissus de cette façon pour isoler les cellules. Et de ça, on fait quoi? C'est ce qu'on fait en laboratoire. On fait des cultures. On peut faire proliférer. On peut tester plein de choses, les cytokines, plein de choses sur ces cellules. Ça, c'est des kératinocytes en culture en monocouche, en 2D, au fond d'une boîte. Et vous savez, l'ingénierie cellulaire a beaucoup évolué aussi depuis une vingtaine d'années. Et maintenant, on est capable de faire des choses beaucoup plus sophistiquées. Et vous voyez, ici, ces cellules en monocouche, on peut les faire pousser en système multicouche. Et ces systèmes multicouches, ça, c'est une coupe d'une culture qui a une douzaine de jours, qui a ensuite été colorée. Et bien, ça ressemble tout à fait à ce que je vous montrais tout à l'heure sur nos peaux, sur la première diapositive, avec toutes les couches. Je vous passe les détails, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais voilà, qui vont différencier de la couche basale à la couche terminale, la couche cornée. Alors, si elles prolifèrent et se différencient, c'est qu'elles ont des capacités de différenciation. C'est-à-dire qu'il y a des cellules qui sont relativement souches, qui permettent justement de à la fois se repliquer pour entretenir et puis se multiplier. Et ça, on va y revenir. Et donc, pour vous dire aussi, ces systèmes 3D, on les appelle RHE. Alors, c'est le jargon, on utilise beaucoup l'anglais, on s'en passerait, mais on n'a pas le choix. C'est Reconstituted Human Epidermis. Et c'est RHE, et bien vous voyez que ça ressemble tout à fait, ça c'est une coupe de peau normale, donc avec la couche cornée, l'épiderme et puis le derme en dessous, bien vous voyez que c'est extrêmement proche. OK, et puis, bon, on est des chercheurs, donc on récupérait ces tissus, ces plasties mammaires, ces prépuces, et bien on voulait savoir comment ça marchait, quel était le rendement, lesquels proliféraient plus, etc. Et ce que l'on a fait, c'est que on a comparé déjà le rendement d'extraction de cellules de kératinocytes en culture. Et vous voyez, entre ici, c'est des prépuces et des tissus de sein. Pardon. Plastie mammaire, pardon, et déjà le rendement à partir des prépuces était 5 fois supérieur à celui des plasties mammaires. Et ce qui nous a encore plus intéressés, c'est que les capacités prolifératives de ces cellules étaient des prépuces était en fait 14 fois supérieure à celle des, des cellules de tissu mammaire. Donc, on était très intéressé par ça, et ça suggérait finalement que dans le prépuce, il y avait plus de cellules souches que dans d'autres tissus anatomiques. Et donc, on a vraiment fouillé cette question, ça nous avait beaucoup intéressé. Et donc, là, pareil, je vous montre ça, on ne rentre pas dans les détails, simplement pour vous dire qu'on a comparé ces cellules, et on s'est rendu compte, finalement, on s'est rendu compte que les cellules issues de prépuces étaient beaucoup plus immatures, étaient beaucoup plus des cellules souches que les cellules issues de plastie mammaire. Donc là, je vous montre ces images ici, comparées ici. Alors là, ce n'est pas du sein, c'est de l'oreille que l'on a pris. On peut avoir aussi d'intervention des tissus qui sont enlevés, et on a comparé à l'oreille dans ce contexte. Et donc vous voyez ici, il y a une diminution dans les cellules de prépuce ici et là de ces marqueurs de différenciation. Par contre, ces cellules de prépuce ont des marqueurs de cellules souches. OK. Alors ces marqueurs, on ne rentre pas dans les détails, mais en gros, c'est des étiquettes que l'on peut mettre sur les cellules, et c'est cette mosaïque d'étiquettes qui permet de caractériser justement ce statut différencié ou moins différencié. Alors, une petite remarque aussi au passage. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent, qui connaissent ça, mais ce n'est pas inutile de le rappeler. C'est du mRNA ici. Le mRNA, vous savez ce que c'est, hein? Donc, on en parle beaucoup, c'est l'ARN. Okay. L'ARN, et ben voilà, nous, on fait de la PCR au laboratoire. Et la PCR, ça ne sert pas qu'à tester la présence ou non du virus. Ça sert à faire plein de choses. Et je dirais que c'est une petite application, même si elle a pris des proportions colossales depuis quelques années. Tout le monde connaît la PCR. Maintenant, tout le monde connaît l'ARN aussi. Personne ne sait, mais tout le monde en parle. Ce n'est pas grave. Mais voilà, c'est des mots maintenant qui vous résonnent un peu plus qu'il y a quelques années. Bref, donc ça, nous, on fait ça depuis longtemps. Alors, dernière chose, finalement, on s'est dit, ces cellules, on va les mettre en culture 3D, on va faire des RHE. Et ce que l'on a vu, c'est que bien quand on faisait des RHE à partir des cellules de prépuce, on avait des superbes RHE qui ressemblaient à de la peau, ce qui est assez génial quand même. Hein. C'est assez récent, ces choses-là, quand même. Et quand on travaille sur des oreilles ou sur du sein, ça marche très, très mal. On a des trucs très moches comme ça et on n'arrive pas à les mener à terme. Donc, alors juste, je reviens un petit peu en arrière sur cette diapo que je vous montrais tout à l'heure. En fait, ce travail que l'on a montré ici, ce sont des RHE. Et ça faisait partie des premiers travaux qui ont été faits sur les RHE. Et on montrait que quand on mettait une cytokine particulière, eh bien, on faisait quelque chose in vitro qui ressemblait à du psoriasis. Il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup de biologie ou de médecine pour voir que les images sont différentes. Et c'est ce qui nous a valu donc cette première page. Voilà, je reviens à ça. Donc, suite à ça, eh bien, vous savez, on aime bien, on réfléchit beaucoup, on parle beaucoup dans les laboratoires. Et puis, on s'est retrouvés avec Jihad, que vous voyez, là, encore une fois, en chair et en os, derrière son affiche, il a beaucoup de chance. Et puis, un autre collègue que je n'avais pas présenté ici, qui est François Bernard, de la société Bioalternative Agencée, avec qui on a développé tout ce travail, et on continue à travailler. Il y en a qui ne s'en plaignent pas dans la salle. Hein, on continue à avoir des collaborations, des thèses en co-tutelle avec Bioalternative, qui s'appelle maintenant Kima. Et puis, donc, on discutait de ces résultats, en disant, ben voilà, c'est formidable. Et Jihad, qui jusque-là, donc c'était il y a à peu près 10 ans, nous donnait ces morceaux de prépuce. Je dis, écoutez, j'aimerais bien venir vous voir. Oui, pardon. Il faudrait nous mettre un truc comme ça, hein, ce serait mieux. Hein. Et Jihad nous a dit, écoutez, moi, ça me donne des idées, tout ça. J'ai une idée assez un peu folle, finalement, c'est que finalement, si ces cellules issues de prépuces et kératinocytes sont immatures, on pourrait imaginer de les utiliser pour faire des greffes chez les enfants brûlés. Et l'histoire a réellement commencé comme ça. Donc maintenant, je vais passer la parole à Jihad, qui va vraiment vous raconter l'histoire pour laquelle vous êtes venu. Mais je crois que c'était extrêmement important de vous montrer comment cette histoire s'est construite. Et ça, c'est une histoire parmi d'autres. Mais je la trouve assez jolie quand même. Je l'aime bien. Et donc, c'était l'occasion de faire passer ce message. Merci, Jihad, à toi.
Bonsoir à tous. Bon, j'ai vu une partie des présents. Merci, Jean-Claude, pour cette présentation qui est bien claire, précise. Et puis, surtout, donc, les travaux fondamentaux, vous avez vu, la recherche a parlé. À ce moment-là, les cliniciens, le praticien, les soins peuvent être proposés avec une solidité extraordinaire. De quoi s'agit-il? Voilà ce protocole qui est simple, rapide, efficace, très adapté en pratique courante, tous les jours. Hein, ceux qui sont dans le service, à l'hôpital, soignent les brûlures tous les jours. Et donc, c'est applicable pas uniquement dans les hôpitaux, mais aussi dans les cliniques, que ce soit en France et surtout à travers le monde. Parce que quand on voit les moyens très difficiles et le manque de moyens dans certains pays, un protocole si simple apporterait vraiment énormément et beaucoup. Et si on peut proposer ces protocoles, c'est grâce aux travaux fondamentaux qui ont précédé hein, pendant des années. C'est 10 ans, c'est minimum, mais je pense que c'était un peu, même un peu plus. De quoi s'agit-il? Vous avez un enfant qui arrive. Je vous raconte l'histoire qu'on rencontre régulièrement dans le service, à l'hôpital. C'est un garçon, 3-4 ans. Le bol a été oublié 2 secondes sur la table, même pas. L'enfant prend le bol. C'est le thé, c'est le café qui est bouillant. Il veut boire, il renverse le bol, donc il brûle le visage, le cou, les épaules et la partie supérieure du tronc, les cas les plus typiques. Donc les brûlures, vous allez voir tout à l'heure, ça peut être superficiel, ça peut être profond. Quand c'est profond, pour cicatriser, il faut une greffe. Nous, grâce à ces travaux, nous pouvons proposer une greffe cellulaire, une greffe kératinocytaire. Nous allons récupérer, vous avez vu un peu le potentiel qu'on a avec la peau prépuciale, nous allons récupérer le prépuce, on transforme ce prépuce, vous l'avez vu, il a été coupé, étalé, déplié à 2 reprises, et les spécialistes sont là, ils sont témoins. Après, nous allons dissoudre cette peau dans la trypsine, nous allons obtenir une suspension cellulaire. C'est une suspension épidermique. Et cette suspension épidermique, nous allons pouvoir l'appliquer sur les plaies par brûlure, en spray, en goutte à goutte, et les résultats sont bons. Maintenant, ce qu'on va faire, on va avancer un peu, pas à pas, pour voir comment est venue cette idée. C'est vrai que là, vous avez vu, travaux fondamentaux, greffe cellulaire. Mais si c'est un cercle un peu, et c'est un cercle un peu victorieux, parce que pourquoi dès le départ nous avons donné la peau de prépuce? Il y avait une arrière-pensée. Et donc là, on va découvrir ça progressivement. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse? La peau, rapidement, on ne va pas faire de l'histologie. Les étudiants sont pratiquement majoritaires, je vois. Et donc, c'est l'hypoderme, le derme au milieu et l'épiderme, la couche la plus superficielle. Ce qui nous intéresse ici, et je le précise parce que des projets derrière, ça peut être très, très intéressant pour les jeunes là, qui vont arriver derrière. Vous allez voir, là, on travaille sur l'épiderme, mais le derme aussi, il y a des choses à faire. Et donc, gardez ça en tête. Nous, on va prendre l'épiderme. L'épiderme, vous savez très, très bien, vous avez une membrane basale, et après, c'est pluristratifié, il y a plusieurs couches. Vous avez la couche basale, et puis après, épineuse, granuleuse, couche cornée. Donc, ce qui nous intéresse, c'est cette population, et particulièrement sur la membrane basale, où les cellules souches, en principe, sont nichées. D'accord ? Et donc, dans l'épiderme, bien sûr, il n'y a pas que des kératinocytes. 90% c'est kératinocytaire, mais il y a aussi des cellules immunocompétentes. On connaît surtout la cellule qui va manger un peu les agresseurs, le macrophage, la cellule de longue errance, mais il y a deux fois plus de cellules T dans la peau que dans le sang. Et donc ça, c'est impressionnant. Hein, pour tous ceux qui s'intéressent à l'immunité, deux fois plus de cellules, des lymphocytes. Donc vous imaginez le potentiel immunitaire de la peau. Il y a les cellules qui donnent la couleur de la peau, les mélanocytes, mais il y a des cellules aussi du système nerveux. Il y a même des filets nerveux. On a les nerfs à fleur de peau, en principe. Ils sont amyéliniques, mais il y a des filets nerveux dans l'épiderme. Alors, la cellule souche, donc, qui a un potentiel extraordinaire, elle n'est pas non plus majoritaire au niveau de la membrane basale. Là, vous voyez 0,01%, ça, c'est chez l'adulte. Chez l'enfant, il y en a un peu plus. Si on regarde un peu la distribution, vous avez une cellule souche pour 10 cellules basales, approximativement. Et si on greffe cette cellule au niveau chez une souris, on marque la cellule au vert, à la fluorescine, ici, et on la greffe chez une souris qui a été débarrassée de son système immunitaire. Et vous voyez comment un peu la prolifération s'est faite d'une manière monoclonale, proliférative. Une cellule de la membrane basale jusqu'à la couche cornée, c'est-à-dire le stade où elle va partir, elle va desquamer, elle va disparaître, elle met pratiquement un mois. En principe. Donc, tous les jours, nous perdons des milliers, des millions des carotinocytes au niveau de la peau. Je ne pouvais pas passer à côté sans évoquer, bien sûr, le prix Nobel de la peau sur les cellules souches, ce qui est un peu extraordinaire. Donc, la compréhension de la biologie des cellules souches favorise le développement des stratégies thérapeutiques. Et c'est à la base de ce que j'ai évoqué dès le début, dès le départ. Et pour vous montrer à quel point il y a encore deux choses à faire, donc les avancées sont extraordinaires, c'est super. Si vous prenez l'exemple du prix Nobel, ici, à partir d'une cellule adulte, fibroblastique, au niveau du derme, je prends l'exemple du derme, donc avec des facteurs de transcription bien spécifiques, on ramène la cellule de l'âge adulte, on la remet en cellule souche, ce qu'on appelle la cellule induite. Ce n'est pas fini. Après, avec des facteurs spécifiques pour faire une différenciation, on emmène cette cellule souche dans une lignée kératinocytaire, épidermique. Elle a changé de lignée. Elle est partie du derme, maintenant, elle est cellule épidermique. Et ce n'est pas une cellule qui va faire de la figuration. Si vous la mettez dans un milieu de culture spécifique, elle va vous donner un épithélium. Donc, une cellule fibroblastique qui est censée donner la substance fondamentale, faire du derme, elle se retrouve à faire de l'épiderme, de l'épithélium. Alors, donc ça, c'était sur les cellules. Maintenant, on passe un peu le pas vers la peau de l'enfant. La peau de l'enfant, c'est juste un exemple pour vous dire que, voilà, à 6 semaines, on est couvert par une couche, monocouche, un tapis cellulaire. Les divisions des cellules, il y a beaucoup de cellules souches à ce stade. Ils se font à l'horizontale et à la verticale. À l'horizontale pour couvrir le fœtus et à la verticale pour avoir un épithélium pluristratifié. C'est à 21 semaines, on a un épithélium pluristratifié. C'est le deuxième semestre pour ceux qui s'intéressent au diagnostic conténatal. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Parce que quand on fait des prélèvements en anténatal, des fois, on touche au fœtus. Et en postnatal, on va chercher les cicatrices, mais on ne les trouve pas. Et donc ça, c'est, chez l'être humain, c'est inconnu. Avoir une disparition complète d'une blessure, on le connaît chez certains animaux, mais chez l'être humain, c'est inconnu. Donc il y a eu une régénération. Et cette régénération, nous allons la perdre assez vite. On la perd, vous voyez, c'est le deuxième semestre. Pourtant, en postnatal, on a encore des caractéristiques de la peau d'enfant qui font penser un peu à une bonne cicatrisation. Ce n'est pas une régénération, mais à une bonne cicatrisation. plus l'immunité va s'installer et plus la cicatrice va se voir. C'est un parallélisme entre humanité et cicatrice. Et donc, comment expliquer ça chez l'enfant ? C'est vrai que le pourcentage, là, vous avez vu 0,01%, c'est les souches chez l'enfant, les 6 premiers mois, on peut en trouver 5 fois plus par rapport à l'adulte, donc un peu plus. Donc, la substance fondamentale n'est pas la même. On a une concentration d'acide hyaluronique qui est plus intéressante, plus importante. Le type de collagène est différent. On a un collagène 3 qui est très favorable à la cicatrisation qu'un collagène 1. Donc, vous voyez ces caractères un peu chez l'enfant. C'est ce qui est bien, ce qui nous a intéressés. Deuxième point, on change du plastique, pédiatrique ou même adulte. Quand on veut faire une greffe de peau, une peau totale surtout, ça peut être une peau fine. Donc, on s'intéresse surtout à une peau qui n'est pas trop épaisse, une peau fine. On ne va pas prélever, par exemple, au niveau plantaire ou au niveau du dos pour greffer. Hein. Donc, on prend une peau assez fine. Je prends l'exemple chez l'adulte, par exemple, les paupières, c'est une belle peau à greffer. Et aussi périorificielle, tout ce qui est autour des orifices, c'est intéressant. Et donc, la peau des prépuces, c'est une peau... Elle est fine, elle est péri-orificielle aussi, et donc est facile à obtenir. Les premiers qui ont commencé à décrire la procédure opératoire de la circoncision, c'est les pharaons. Donc, bon, le chirurgien n'a pas publié, on ne connaît pas son nom, mais la procédure est dessinée sur le mur, un peu si vous visitez les pyramides, et c'était chez les pharaons, c'était initiatique. C'est-à-dire jusqu'à la circoncision, c'était pas distingué garçon ou fille. À partir du moment où il y a une circoncision, c'est parti dans la lignée garçon. Et donc les pharaons fonctionnaient comme ça en Égypte. Et donc, professeur Lecran vous a expliqué tout à l'heure, avec ces cellules et avec cette peau, ce qu'on faisait. Donc je ne reviens pas dessus. Là, c'est un exemple avec l'osme. Maintenant, allons plus loin. Donc, vous avez vu, cellules, la peau de l'enfant, ça nous intéresse. Et à quoi ça va nous servir ? Donc, les brûlures. Alors, les brûlures, typiquement, c'est un garçon au bas âge. Donc, vous voyez, c'est 3 ans. Donc, garçon, c'est majoritaire. On doit avoir le chromosome du feu, sûrement. Donc, ça brûle. Et souvent, c'est un liquide chaud. C'est le liquide chaud, ça peut être le lait, le café, le thé. Il suffit vraiment de 2 secondes. Il suffit qu'un parent oublie le bol, le verre, mais même pas 2 secondes, et boum, c'est brûlé. Donc, ça va très, très vite. Deuxième point à signaler, c'est dans la cuisine. Plus qu'un cas sur deux dans la cuisine. C'est pour ça que je l'ai mis domicile, mais j'aurais pu mettre vraiment cuisine, là où on se brûle le plus. La majorité, 10% des surfaces corporelles est brûlée. Pour vous donner une idée, la face palmaire d'une main chez l'enfant, c'est 1%. Donc 10%, ça commence à faire bien. Et donc là, j'ai mis la cuisse, par exemple, c'est 9%, à peu près. Et pas loin d'un cas sur deux, pour obtenir une bonne cicatrisation, il faut une greffe. Si une brûlure, ça va cicatriser toujours si vous laissez l'enfant... ou même l'adulte, si vous le laissez 3 à 4 mois, il va finir par cicatriser. Mais vous allez avoir une cicatrice, pas belle, inflammatoire, kéloïde derrière. C'est ces cicatrices boursouflées qui sont dures, qui donnent ça. Donc, vous voyez, 40 000 enfants par an. Et je pense que c'est un peu sous-estimé, parce que beaucoup de gens ne vont pas signaler, donc ça passe à l'as. Première cause des morbidités. Vous voyez cet enfant, l'a brûlé au niveau du visage. Ça, c'était un bidon d'essence dans la cheminée. Donc, le bidon d'essence a servi pour allumer le feu. Et il a chauffé, il a explosé. J'ai mis une fille. J'ai mis qu'une sœur, mais il y avait 2 sœurs qui ont été brûlées par ce bidon d'essence. Et la main qui est sous-jacente, là, vous allez voir des exemples, c'était l'insert. Là, j'ai mis qu'une main, mais il y avait les 2 mains. Et donc, on imagine très, très bien les cicatrices, rétractions. Croissance de la main qui n'est pas top. Donc, c'est vraiment un problème de santé publique assez pesant. Alors là, quelques exemples juste pour vraiment sensibiliser à cette question. Là, vous voyez là, l'enfant, dès qu'il commence à marcher, à gambader, il va explorer. Et donc, il est derrière sa maman. Et là, dans la cuisine, désolé, le papa, mais donc, ça brûle. L'enfant, il ne faut pas lui laisser les moyens de faire un feu. Donc, vraiment, il ne faut pas qu'il craque une allumette. Vous lui laissez une lampe avec des rideaux synthétiques. Dans la chambre, c'est Koh-Lanta. Il va vous mettre le feu à la maison. Mais, et en 2 minutes. Donc, c'est très, très rapide. Voilà cette pétiote, là, haute comme 2 pommes. Et elle s'affaire à préparer le dîner. Donc, elle pose les mains. Bon, maintenant, les fours sont de moins en moins plaques chaudes. Donc, ça va un peu mieux. Mais elle brûle le demain. Pour l'insert, c'est la même chose. Et dernier exemple qui est aussi assez fréquent, c'est les prises défectueuses et les fils qui sont défectueux. Et ça, c'est un enfant avec les 2 mains. Une main, elle a perdu la petite, elle a perdu la... C'est pas le même enfant, mais j'ai mis ça pour montrer la prise. Le 4e doigt sur une main. Et sur l'autre main, où c'est touché à la base, elle a une articulation complètement raide. Elle ne bouge pas du tout parce que les tendons est bousillé, plus l'articulation métacarpo-phalangienne. Alors, on a une brûlure, qu'est-ce qu'on fait? Donc, d'abord, il faut refroidir la brûlure, pas l'enfant, il ne faut pas noyer l'enfant dans l'eau, glacé en plus, donc glacé. Donc, évitons l'hypothermie. On protège alors la brûlure, évitons les recettes un peu historiques. Hein, pas de beurre, pas de dentifrice, pas de... Donc, linge propre, si on a une pommade un peu refroidissante ou un gel refroidissant, c'est très, très, très bien. On enrobe tout ça. On donne, je vois qu'il y a des étudiants, si on donne un antalgique, pas Péroce, parce que si on doit l'endormir derrière, il n'est pas à jeun, l'enfant, donc ça devient difficile. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si vous voyez, là, c'est une brûlure, on décape, on nettoie. C'est pratiquement 1 cas sur 2. On est dans cette situation, plus qu'un cas sur deux. On va nettoyer. Vous avez l'exemple d'une main, d'un avant-bras. On va enlever toute la peau morte. On va faire un pansement qui est humide, gras, fermé. Sur 2 semaines, c'est cicatrisé. 1 cas sur 2. Par contre, quand vous avez une brûlure profonde, cette fois-ci, le derme est touché sur le tiers moyen, sur le tiers profond, on commence à toucher aux cellules que j'ai évoquées, les cellules souches. S'il n'y a plus de cellules souches, plus de cicatrisation en principe satisfaisante. Et là, on a besoin de faire une greffe de peau. Ce qu'on greffe surtout, c'est la peau fine. Pourquoi peau fine? Parce qu'on a un appareil que vous voyez ici. On va récupérer fréquemment ces faces internes des cuisses et les cuirs chevelus, et puis après, là où il y a de la peau, on récupère l'épiderme et le tiers supérieur de derme. Il ne faut pas aller très, très profond, parce que si vous allez profond, vous allez virer les annexes et virer les sources des cellules souches complètement, et la zone prélevée, elle ne va pas cicatriser. Vous allez vous retrouver avec 2 plaies, à la fois la brûlure plus la zone qui a été prélevée. Et donc, on obtient une peau. On la greffe ou bien comme ça, comme c'est au visage, ou bien on la transforme en filet pour la doubler, la tripler, la multiplier par 6. Plus on la multiplie, et plus l'échec est fréquent. D'accord? Donc, quand on a, par exemple, une brûlure jusqu'à 9%, jusqu'à 10%, on arrive toujours à faire une greffe de peau fine. On a les cuisses, on a les cuirs chevelus pour couvrir. Mais pour vous donner une idée, une main brûlée, pour couvrir une main, il faut déshabiller une cuisse. Et donc, ça va vite après. Et donc, on peut se retrouver avec des surfaces importantes et on n'a pas de peau pour couvrir les surfaces. Et un brûlé qui est à vif, il n'a pas de peau, la survie, elle est en question. Il y a ça. Et puis, le deuxième point, c'est qu'on greffe. Donc, vous voyez ici, ça peut arriver d'avoir des cicatrices à la face interne de la cuisse. Imaginez si on fait ça sur les cuirs chevelus, il y a les cheveux en plus, alopécie, on n'a pas de cheveux, donc c'est encore plus visible. L'aspect un peu enfilé, crocodile, comme ça reste vraiment très, très, très longtemps. c'est pratiquement à vie. Vous voyez là, c'est au thorax, à la face inférieure de la jambe, c'est là, c'est la même chose. Donc, bien sûr, les équipes, ça fait des années, ça fait des décennies. La première greffe, micro-greffe, qui c'est qui, les étudiants ? Première micro-greffe, 1900, 1800, 1800, Reverdin, ça vous dit rien ? Bon. Donc, premier chirurgien qui a pensé, il avait un avant-bras complètement sans peau et ça cicatrisait jamais. Il s'est dit, mais comment je vais faire ? Il est allé prendre des petits morceaux de peau millimétriques au niveau de la cuisse. Il les a posés comme ça sur, sur l'avant-bras. Et au bout de quelques semaines, il a remarqué que le 2 mm, ça devenait 1 cm. Et c'était le premier à décrire un peu les micro-greffes comme ça. D'accord ? Reverdin, 1800. Et donc là, 1975, prélèvement de 4 cm, sans préciser la zone un peu à prélever, on fait une digestion, on met ça en culture, ça met un mois et demi pour obtenir un épithélium. Ça coûte horriblement cher. C'est la plaque, si on n'est pas loin de 1 500 € à peu près. D'accord ? Les risques d'infection sont importants, les résultats ne sont pas terribles, on a une peau, vous voyez ici, qui est vieillie, fine, dès que vous frottez un peu, on a des phlectènes. Ça sauve des vies, mais ce n'est pas vraiment tip-top. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, vous avez entendu l'histoire au début, avec quelques diapos qui résument deux années de travail. Et donc, pourquoi ne pas utiliser les cellules ? Vous avez vu, là, je vous ai dit que la peau fine, on l'amplifie 6 fois, on a un taux d'échec 1 cas sur 2, 50% quand on amplifie 6 fois. La greffe des cellules, les équipes qui ont déjà commencé à proposer la greffe kératinocytaire cellulaire, ils évoquent une amplification de 80 fois. 1 sur 6, 1 sur 80. C'est bon, allez, 10 fois plus au vaguement. Donc, la greffe, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de se dire que quand on prend les cellules, on les met en culture au laboratoire, on le décape une fois, deux fois, trois fois. C'est-à-dire, l'épithélium obtenu là, par culture, les cellules ont été détachées un peu de leur socle au moins 4 à 5 fois. Toutes les protéines d'adhérence, ils sont usés, ils sont fatigués, mais même la cellule, elle est plus jeune. Je vous ai dit que la cellule qui était la membrane basale, elle mettait un mois à arriver là, à la surface pour partir. Donc, quand on la met en culture pour avoir un épithélium, c'est fin de vie pratiquement. Et donc, l'idée, c'est de dire pourquoi ne pas chanter cette étape de culture de un mois et de faire une culture épidermique extemporanée, hein, donc autologue pour l'instant. D'accord ? Alors, donc là, ça résume. Cette proposition, ce protocole, ça a été fait, ça a été utilisé une quinzaine de garçons jusqu'à maintenant. Les résultats sont excellents. Et donc, je vous répète un peu ce qu'a évoqué le professeur Lecran tout à l'heure. Et voilà quelques résultats. Là, ça a été publié en 2013, mais les enfants ils sont suivis jusqu'à maintenant. Les résultats, c'est vraiment c'est stable dans le temps. On n'a pas de surprise et tout se passe bien. Et donc là, vous voyez l'enfant que j'ai donné comme exemple dès le départ. Une semaine après, un mois, à 3 mois, 6 mois et 12 mois, pardon, et 18 mois. Et donc, la cicatrice, elle est souple, elle est pâle, elle est blanche, elle est belle. La mobilité de l'épaule est sauvegardée, il n'y a pas de rétraction, il n'y a pas d'hébrite. D'accord ? Deuxième exemple, ça, c'était une semaine après. Ici, c'était un mois après, et là, c'était 3 mois après. Là aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est une peau de couleur. Et regardez, qu'est-ce qui se passe au niveau de la cicatrisation ? C'est une cicatrisation de couleur. Et donc, au fait, quand on dit kératinocytaire, c'est un peu trop résumé, c'est une population épidermique. Il y a les mélanocytes qui sont là-dedans aussi. Il y a d'autres cellules, mais bon, on évoque que ces deux pour l'instant. Alors, donc, voilà cette proposition d'un protocole simple. Et ce n'est pas tombé comme ça du ciel d'un coup. Vous avez vu, c'est des années de travail qui nous a permis de proposer ça. Et j'ai dit ça, on est tous jeunes, bien sûr, mais surtout pour les jeunes. Vous avez vu ces liens entre les travaux et les applications aux soins. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une question qui vous brouille les lèvres, sûrement. Non? Quand je dis peau de prépuce, greffe autologue, rien ne vous choque? Et les filles, voilà. Voilà une belle question. Qu'est-ce qu'on fait pour les filles? Ou bien on fait une allogreffe, c'est-à-dire on prend les cellules d'un garçon pour les filles, ou bien il va falloir trouver quelque chose chez les filles. Et donc, profitons de la situation pour, bien sûr, remercier les fonds Alionor pour les soutiens. C'est le projet là qui est en cours et les sujets à venir. Et autour, donc, c'est un fonds de dotation des sociétés qui nous soutiennent et qui nous aident. Autosphère, CEFI. Hein, je ne savais pas que CEFI était localisé à Poitiers avec une société européenne multinationale. Les clubs doyens, Lyons, merci beaucoup. Et puis à la mairie des Montamisés qui nous a soutenus. Et puis, bon, je n'ai pas mis une grande liste parce qu'on peut aller vite. Et donc, ces soutiens, ça nous permet bien sûr de continuer les travaux. Ça permet à nos jeunes chirurgiens, jeunes internes, de continuer l'activité au Litec. Avec, sous la direction du professeur Morel et dirigé par docteur Rioux, si présent. Et donc, on continue. C'est les projets. Donc, nous avons le projet d'un PHRC qui est bien financé, bien doté. Mais malheureusement, ça va faire quelques temps, trop longtemps, qu'on attend l'autorisation de l'ANSM. C'est une thérapie cellulaire. Et une thérapie cellulaire, il faut un laboratoire labellisé thérapie cellulaire. Et l'ANSM, il y a des lois européennes qui sont tombées à interpréter, à traduire. Et on attend l'autorisation pour faire un travail comparatif. Deux bras, greffe de peau fine, la procédure standard, greffe kératinocytaire, autologue chez les garçons, en suspension. Et c'est un PHRC national, pas mal de CHU qui sont là-dedans et qui attendent aussi. Il y en a qui ils nous demandent un peu de nouvelles régulièrement. Et j'espère que, bon, il ne faut jamais désespérer. Voilà, c'est ça, c'est le PHRC. Ah, le projet hospitalier de recherche et clinique. Voilà. Et donc, bien sûr, le projet que j'ai évoqué avec Aliénor actuellement. Donc, il va falloir qu'on trouve le site anatomique qui est le plus proche d'une peau prépuciale. C'est en cours. Et donc, les travaux, c'est toutes les semaines, c'est régulièrement. Et donc, les résultats, pas pour demain, mais pour bientôt, j'espère. Et donc, vous voyez ces travaux fondamentaux de recherche appliqués aux soins, appliqués à l'enseignement. Ce n'est pas uniquement, bien sûr, un projet local. Hein, c'est quand on travaille comme ça, c'est dans les cadres régional et national derrière, avec des liens assez solides localement, hein, que ce soit avec la dermatologie, avec la plastie, avec la chirurgie tête et cou, avec les laboratoires que nous allons le voir. Vous voyez, donc, nous sommes la chirurgie pédiatrique. Là, on a parlé que des brûlures, mais il y a aussi la plastie pédiatrique qui est autour de ça, hein, les malformations faciales, de la main. Il y a aussi la prise en charge des pathologies chirurgicales, urologiques et viscérales chez l'enfant, et tout ça dans un pôle. Et tout ça en lien avec la dermatologie, comme je viens de l'évoquer, cervico-maxillofaciale, plastique adulte, en connexion dans la région, avec les centres de référence, avec les laboratoires qui travaillent également avec Exclim. Également, il y a des projets pour étudier les cicatrices là, à venir, avec un rayonnement, que ce soit nord-sud, Là, je donne l'exemple du Burkina, mais ça peut être un autre. Et Est-Ouest également, les Liban et au-delà. Voilà ce qu'on voulait vous raconter sur ce protocole. Greffe kératinocytaire, autologue, chez les garçons, brûlés pour l'instant, avec un projet pour les filles, on l'espère. Merci de votre attention.
Merci à tous les deux et je vous propose de poser vos questions si vous en avez. Vous avez tout compris ? Pas de questions ? Tout était très clair ?
Commentaire pour lancer le débat. Donc, Jihad a évoqué tout à l'heure les greffes allogéniques par rapport aux greffes autologues. Et l'histoire qui était extrêmement importante ici, c'est qu'on pouvait utiliser soi-même comme donneur. Et effectivement, c'est le problème avec les filles, comme tu l'as évoqué. Mais vous savez, donc, Thierry Wett connaît bien l'histoire, évidemment, avec, plutôt pour les greffes de rein. Mais la question est la même pour tous les tissus. Vous savez qu'on a des systèmes immunitaires complexes qui font que, les CMHLA, on ne peut pas greffer n'importe quel tissu à n'importe qui. Vous savez, on cherche toujours des donneurs compatibles, etc. Et c'est la raison pour laquelle cette histoire est aussi extrêmement intéressante. On ne peut pas préparer de la peau comme ça ou utiliser des peaux de prépuce pour greffer parce que ce serait rejeté, en fait. Donc, ça oblige à une espèce de gymnastique intellectuelle pour essayer de contourner ces questions. Alors, pour la peau, c'est facile. Pour un rein, c'est plus compliqué. Voilà. Bon, ça ne lance pas le débat. Hein.
Moi, c'est une question pratique. Comment on fait pour pulvériser cette suspension sur la zone qui est brûlée, parce qu'une greffe de peau fine, on sait comment on va recouvrir la zone délimitée, mais comment le dosage, je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Ouais. Non, mais la question est, merci pour la question. Donc Sandra, elle est référente plaie et cicatrisation au CHU de Poitiers, donc la question est très, très pointue. Alors, pour l'instant, au fait, le dosage, c'était chez un garçon d'utiliser toute la population obtenue, épidermique. Quand on a un prépuce en surface, elle est moyenne entre 4 cm² et 6 cm², on a 4 millions, voire 5 millions par cm². Et donc, on savait qu'à chaque fois, on greffait 25 millions de cellules d'emblée chez les enfants. La série que je vous ai évoquée, c'est la surface moyenne de brûlure, elle était de 10%. Et donc, c'était 25 millions par 10%, ça fait 2,5 millions, ce qui est pas mal, ce qui est beaucoup. Parce que quand on regarde un peu, je ne parle pas des cellules d'origine prépuciale, mais d'autres prélèvements, il parle de 500 000 cellules, des 1 million, mais pas autant. Donc, en fin de compte, pour l'instant, tout ce qu'on obtient suite au prélèvement d'un prépuce, on les greffe chez l'enfant. S'il est brûlé à 5%, il va avoir ses 25 millions de cellules. S'il est brûlé à 10%, il va les avoir aussi. Sur la petite série qui évoquait, ça marchait dans les deux cas. Si on doit affiner un peu plus loin, c'est-à-dire faire des dilutions des greffes, c'est un beau projet d'avenir. La porte est...
Un petit commentaire pour compléter ce que dit Jihad. C'est une question qui nous a beaucoup préoccupés quand on a, entre autres, écrit le projet hospitalier de recherche clinique, de savoir, finalement, utiliser un prépuce. Toutes les plaies n'étaient pas de la même surface. Et de savoir si on devait estimer, quantifier jusqu'où on pouvait aller terme d'une cellule pour telle surface. Et donc, nous, chercheurs, c'est vraiment les questions qu'on se pose tous les jours. Là, pour les patients, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, comme dit Jihad, ce qui a été décidé, c'est de dire on prend l'ensemble des cellules, quelle que soit la surface, et puis on verra bien. Parce qu'en essayant, alors après on protocole, vous savez, dans les projets de recherche clinique aussi, de savoir ce qui est, jusqu'où on peut aller. Mais là, éthiquement, ce n'était pas possible, évidemment. Donc on n'a pas pu le faire. Mais vous voyez en quoi les modèles in vitro peuvent nous aider aussi à aborder ce genre de choses.
Bonsoir. Est-ce que ce type de traitement pourrait être étendu pour les adultes à l'avenir ?
Alors, c'est vrai que les collègues chirurgie plastique adultes, ils sont très, très intéressés par les travaux. Donc, déjà, le comparatif, vous avez vu les sites, c'était enfant-adulte, c'était l'étape, et puis après... Enfant, c'était en fonction des sites anatomiques. Et donc, nous avons fini par dire que la peau prépuciale est très, très bien. Sur peu de prélèvements adultes, là, il y a eu des centaines de prépuces enfants, sur peu de prélèvements adultes, la qualité n'est pas la même. C'est, vous pouvez diviser par deux, que ce soit en production de nombre de cellules par centimètre carré, en prolifération derrière. Et donc, après, chez l'adulte, éventuellement, j'ai évoqué la paupière tout à l'heure, pourquoi pas ? Mais il faut la tester. Mais c'est d'une application, bien sûr, c'est valable chez l'adulte aussi. Ouais. Oui, bien sûr, on n'a pas les mêmes indications.
Bonsoir, merci pour la présentation. Moi, je rebondis par rapport à l'actualité avec la première xénotransplantation cardiaque à partir de porcs génétiquement modifiés. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer la même chose en fait, pour ces enfants ou pour les adultes brûlés avec des porcs génétiquement modifiés pour éviter les
Oui, alors c'est le spécialiste du cochon qui devrait vous répondre. Voilà. Mais... Bon, juste un petit commentaire quand même, y compris par rapport à la peau. Finalement, j'imagine que ces xénotransplantations conduisent à l'utilisation d'immunosuppresseurs. Ça me paraît une évidence. Tu répondras, j'imagine, Thierry. Mais il y a des choses qui ont été faites avec des xénogreffes de peau, en fait. Et justement, ils ont utilisé aussi des peaux de prépuces pour greffer donc, à un autre individu. Et en fait, là, et nous, on a aussi beaucoup discuté de cet aspect des choses, c'est plus de la xénogreffe. C'est finalement, on met un tissu, je dirais quasiment un pansement biologique qui va favoriser, qui va produire des molécules, les fameuses cytokines que je vous évoquais tout à l'heure. On y revient à la fin aussi. Et au bout du compte, ça va faciliter la régénération du tissu, mais il n'y a pas vraiment de prise de greffe dans ces cas-là. Donc, pour la peau, ça a été fait. Bon, il n'y a pas trop eu de publication depuis. Hein. Ça, c'était il y a une dizaine d'années. Mais bon, c'est plus tout à fait de la greffe.
Ouais. Alors, sur la peau comme ça, le même exemple, nous avons sur le marché l'Integra. L'Integra, c'est du collagène bovin qui est utilisé. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on met l'Integra ? On le laisse 2 semaines, 3 semaines. Les biopsies qui ont été faites, en fin de compte, c'est qu'il y a un envahissement. Le processus inflammatoire qui a été décrit tout à l'heure avec Jean-Claude, il y a les cellules, ils viennent y habiter, ils vont digérer le collagène, ils vont le remplacer. Et ce sont les tissus de l'hôte qui viennent, en fait, ils ont utilisé ça comme une maquette, comme une charpente, et ils vont la coloniser. Ça, c'est l'Integra. Après, les tentatives qui datent de quelques décennies de faire de l'allogreffe cellulaire, c'est la même chose. Il y a eu des greffes hommes-femmes, donc c'était facile parce qu'il y a XXY. Et une semaine après, 2 semaines après, il n'y avait plus une cellule qui est restée en place, sans immunosuppresseur, donc bien sûr. Alors, ça s'est dit, ce n'est pas complètement inutile. parce que vous avez vu un peu la bombe cytokinique kératinocytaire, et c'est-à-dire quand vous mettez des cellules en place, elles vont même sur 7 jours, elles vont sécréter et excréter, et donc ce sont des facteurs qui vont favoriser la cicatrisation quand même. Et ce n'est pas sorti, mais c'était phase 2 en 2011-2012, de sortir la greffe kératinocytaire en spray, même procédure, mais en irradiant les cellules, c'est-à-dire il neutralise complètement l'effet prolifératif et il compte uniquement sur l'effet sécrétoire des cellulaires kératinocytaires. Et donc, si à l'heure actuelle, si on doit penser aux cellules ou à la peau, ça serait un peu dans ce sens, c'est-à-dire il y a un effet un peu facteur, il y a un facteur cytokine qui va aider.
Mais c'est plus vraiment en ce sens.
Prenez le micro. Oui.
Pardon. Oui, je dis finalement c'est plus une greffe au sens propre du terme. Tu veux dire un mot, Thierry, à propos des greffes?
À propos des porcs, je suppose. Je remercie Marine de sa question. Alors, c'est vrai que le tissu porcin, effectivement, et la peau de porc est reconnu depuis globalement assez longtemps comme étant structurellement très proche. Alors, l'utilisation et l'arrivée des porcs, effectivement, qui sont maintenant en train d'être utilisés, d'être évalués, avec ces modifications qui ont été faites, peuvent envisager d'utiliser de tels tissus. Il y a quand même beaucoup de problèmes qu'on va avoir aussi, d'ailleurs, avec le cœur, avec le rein. C'est que malgré tout, même s'il y a une proximité, il y a tout de même encore des données physiologiques que l'on n'a pas complètement, qu'on ne maîtrise pas encore complètement. Le facteur de croissance, la croissance des organes, comment ça va se passer, etc. Quand on imagine la croissance d'un foie et tout, il y a quand même des choses qui devront être quand même assez contrôlées. Au niveau de la peau, il va y avoir tous les processus de cicatrisation. Je ne suis pas certain que la reprogrammation soit tout à fait la même, qu'elle passe par tout à fait les mêmes facteurs. Il y a peut-être certainement des choses qui vont avoir besoin d'être maîtrisé beaucoup plus. Mais une chose est certaine, c'est ce que dit Jean-Claude, on est dans la xéno quand même malgré tout. Et ça voudra dire des immunosuppresseurs quand même à envisager malgré tout. On ne pourra pas avoir des transplantations comme ça avec une tolérance totale et absolue. Et le problème, ça va surtout aussi esthétiquement. Qu'est-ce qui va se passer? Comment cette peau va cicatriser? Comment est-ce qu'elle va se réparer? Si c'est pour avoir toute une portion de peau, effectivement, faisant rappeler gentiment le gras de cochon, ça risque quand même de poser quelques petits problèmes esthétiques entre nous, donc ce n'est pas forcément encore totalement maîtrisé. Donc il y a encore beaucoup de chemin pour les utiliser.
Et les modifications génétiques auxquelles vous faites allusion aussi, alors on peut jouer effectivement, il y a beaucoup de choses sur les molécules de type HLA, comme je disais tout à l'heure, qui sont impliquées, mais il n'y a pas que ça. Alors c'est vrai que dans la presse, c'est vachement beau, c'est OK, mais après, toutes nos... tous les ARN, toutes les protéines qui sont produites, elles vont être différentes entre, pour prendre l'exemple de l'homme et du cochon. Et donc, il va y avoir une réaction, même si ça n'implique pas tout à fait les mêmes mécanismes suite aux modifications, mais toutes les molécules qui vont être produites, qui seront reconnues comme non-soi, c'est le principe de l'immunologie, vont amener des réactions et des rejets. Enfin, je crois que bon, ça avance, c'est intellectuellement très intéressant, mais bon, je crois qu'il faut faut pas crier victoire, aujourd'hui en tout cas.
Bonsoir, vous parliez de compatibilité tout à l'heure. Est-ce que vous avez pu observer une différence de l'acceptation du corps et du système immunitaire entre justement cette technique de greffe cellulaire et la technique de greffe de peau qu'on connaissait avant?
Alors, il est vrai que chez l'enfant, c'est assez spécifique, assez particulier. Donc, pour répondre à la question... J'évoque une autre pathologie qu'on a chez l'enfant, c'est ce qu'on appelle les névis géants, les grands grains de beauté. Et pour les enlever, quand c'est nécessaire, ça nous arrive d'aller poser des ballons à côté de la lésion, dégonfler les ballons, c'est comme le principe de la grossesse, et pour gagner de la peau saine. Et donc, ces ballons, on peut mettre 500 ml, on peut mettre 1 litre, et on peut mettre 2 prothèses, 3 prothèses, comme ça. Ça peut être au niveau de la tête, au niveau du tronc. Et puis, et l'enfant, il porte ça pendant un mois et demi. Et puis, il est frais comme pas possible. Il joue, il saute. Et il... Vous faites la même chose chez l'adulte. Il faut le mettre sous antidépresseur. Parce qu'il y a une modification de l'image corporelle. Et c'est vraiment... On n'a pas le même profil chez l'enfant que chez l'adulte. Et donc, pour répondre à la question, je dirais non. Il n'y a pas eu un retour un peu néfaste, entre guillemets. Par contre, il y a un retour positif, ça c'est sûr. C'est qu'il y a moins de douleur parce que la cicatrice d'une petite biopsie des peaux est moins douloureuse. Ça, c'est un point. Et puis, sur le plan esthétique, j'ai montré un peu l'aspect d'un filet, l'aspect crocodile. Et ça, c'est sûr, quand on voit un peu les résultats, quand on a des bons résultats avec une greffe cellulaire, c'est homogène, c'est souple. Y a pas, donc, il y a un résultat esthétiquement joli. Pour terminer, mais vous gardez ça, vous laissez ça entre parenthèses, hein, il ne faut pas aller brûler les garçons pour obtenir une circoncision. Parce qu'il est très difficile, la circoncision, il n'y a pas d'indication médicale pour faire une circoncision. Et donc, est-ce qu'on doit être content ou pas? Mais quand on proposait, parce que bon, l'enfant est mineur, et on propose aux parents, bien sûr, et quand on disait, pas tous, hein, certains parents, nous avons une procédure pour greffer des cellules en faisant une circoncision, alors là, c'était un oui massif et validant. Bon, mais ça, c'était pour rigoler. Mais c'était pas notre motivation première.
Cette question était tout à fait intéressante parce que finalement, Jihad, tout à l'heure, vous a parlé du PHRC, du projet hospitalier de recherche clinique qui est en attente. Je veux dire que nous sommes très tristes et on relance les autorités sanitaires pour avoir l'autorisation de le lancer. Et l'objectif était justement de comparer de façon randomisée, c'est du jargon, au hasard, les enfants de dire qui arrivaient, on dit soit une greffe classique est prévue, soit une greffe de cellules isolées de prépuces pour justement comparer tout un tas de paramètres entre ces deux situations, y compris des paramètres immunitaires. Et c'est vrai que c'est aussi un travail dont on parle quasiment depuis le début de cette histoire, mais il faut avancer pas à pas, c'est pas simple. Et moi, je vous ai beaucoup parlé de cytokines. Et moi, j'aimerais bien qu'on y retourne, finalement, y compris dans ce système de greffe, qu'on essaie d'appréhender un petit peu lesquelles, puisqu'elles sont produites, évidemment, c'est une situation d'agression tissulaire, et de voir celles qui sont positives, celles qui sont négatives, et comment on pourrait jouer. On parle beaucoup de biothérapie aujourd'hui. Donc, les biothérapies, c'est à la fois... Et les biothérapies sont très fortement autour des cytokines. Quasiment plus de 50% des biothérapies tournent autour de ça. Et donc, soit rajouter des cytokines pour améliorer ce processus, soit mettre des anticorps monoclonaux pour les freiner. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de projets encore pour les plus jeunes. Mais j'aimerais bien voir ça un jour, hein, autour de ça. Voilà.
Bonsoir. Tout d'abord, merci pour votre présentation. Et moi, j'avais une question concernant du coup la greffe de peau prépuciale. Jusqu'où on peut aller dans cette greffe par rapport au niveau d'atteinte cutanée, jusqu'à quel niveau de brûlure on peut aller faire des greffes? Et je voulais aussi savoir, j'ai une question aussi à l'intérieur, enfin une autre question en quelque sorte. Comment va se passer aussi, parce qu'on n'en parle pas trop, de la régénération en quelque sorte du derme qui est dessous? Est-ce qu'il y a un processus qui se met en place ou, enfin, si vous pouviez m'éclairer un peu plus sur ça. Merci.
Alors, c'est une très bonne question qui me pousse à être un peu plus précis sur la série que j'ai présentée. Et donc, une quinzaine de patients, les brûlures, vous savez qu'il y a le premier, deuxième, troisième degré. Quand on a une brûlure deuxième degré profond, on a encore du derme. D'accord. Donc, notre série, c'était deuxième, intermédiaire et profond. Donc, il y avait un sous-sol encore, il y avait du derme. Et notre greffe des kératinocytaire, elle a été déposée sur le derme. D'accord ? Et donc, pour revenir à la question de Sandra tout à l'heure, c'était en goutte à goutte, c'est-à-dire on a quadrillé un peu la surface des brûlures avec de la vaseline pour que la suspension ne se barre pas. Et on a déposé, on met un pansement, comme pour une greffe de peau, avec de l'adaptique et de l'ergotule, on la laisse, comme pour une greffe de peau, pendant 5 jours avant de contrôler la cicatrisation derrière. Ça, c'est sur l'action. Alors, si on a une brûlure plus profonde, troisième degré, il n'y a plus de derme, alors là, c'est la même chose, c'est encore une possibilité à explorer. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme substance fondamentale ? Bon, on connaît l'intégra avec le collagène pour se servir comme socle. Mais si on doit aller encore plus loin, il faut caractériser encore des cellules. Cette fois-ci, c'est plus les épidermiques, mais dermiques, et partir sur ce chemin pour présenter la substance fondamentale la plus intéressante. Et beaucoup de laboratoires, ils sont bien sûr sur ce chemin, voilà, c'est en cours. Alors là, jusqu'à combien ? On a évoqué une amplification de 1 sur 80. Il y a des travaux qui montrent qu'on peut aller de 1 sur 80. C'est-à-dire avec 1 cm², vous couvrez 80 cm². C'est déjà énorme. C'est déjà énorme, c'est beaucoup. Voilà. Et donc, on peut retenir pour l'instant 1 sur 80. Et c'est des séries qui parlaient d'une concentration cellulaire en centaines de milliers. Ce n'est pas en millions. Et donc, en centaines de milliers. En 500 000 par ml déposé. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Je vous ai montré les cultures tout à l'heure que nous faisons de RHE, donc d'épiderme. Et maintenant, j'avais mis un petit mot d'ailleurs sur la... On peut faire des choses beaucoup plus complexes. Et au laboratoire, c'est d'ailleurs deux collègues là qui s'y sont attelés, on fait des cultures avec des fibroblastes dans un milieu, plus la couche reconstituée, des peaux de plus en plus reconstituées. Et on a un projet aussi, en collaboration d'ailleurs avec le laboratoire Bioalternative. On a une thèse en cours, d'ailleurs, notre doctorante est là, voilà, qui a pour objectif de rajouter des cellules immunitaires à ces peaux, c'est-à-dire d'approcher au maximum c'est une peau réelle avec en laboratoire. Et ça a beaucoup d'intérêt, y compris, je dirais, un peu accessoire, cosmétique. Pour tester des produits cosmétiques, vous savez que le greenwashing, etc., depuis longtemps, on ne teste plus les produits chez les souris. Donc, il faut des modèles comme ça pour que... Et donc, ça, je crois que ça a été aussi un plus pour développer ces modèles, tout cet aspect cosmétique, test de cosmétique. Et voilà, nous, on s'intéresse au côté beaucoup plus médical, mais finalement, le développement, L'Oréal est très impliqué là-dedans, etc. Le développement se fait aussi beaucoup avec ce type de société.
Bonsoir. Juste une question. Est-ce que vous avez une limite d'âge chez les enfants chez lesquels vous prélevez les prépuces ?
Non. Donc, il n'y a pas de limite d'âge. Par contre, donc, c'est une collègue chirurgie pédiatrique qui pose la question. C'est intéressant parce qu'elle va nous donner des... C'est Diana. Et donc, on a vu que les pourcentages des cellules souches, c'est plus on vieillit, moins il y en a. Et donc, je pense que les 6 premiers mois post-natal sont super pour récupérer une peau d'une belle qualité. Et à 1 an, c'est moins bien. À 5 ans, c'est moins bien. Et c'est vrai qu'à 14, 15 ans, ça y est, on s'approche un peu de l'adulte. Voilà. Et donc, il n'y a pas d'âge limite, mais on sait que avec l'âge, on perd la concentration des cellules souches.
Il faudra les congeler à 6 mois.
c'est à double tranchant. Voilà une question très philosophique. C'est-à-dire, est-ce que nous, on parle d'une greffe en suspension autologue, est-ce qu'il faut pas garder sa peau pour un jour être soigné, ou est-ce qu'il faut la prendre à 6 mois et l'utiliser pour les autres? Discussion vaste. Voilà, voilà. Exactement. Ah oui, après, ouais. Il faut qu'on crée une banque, on l'appellera le BPP.
Cela dit, ça c'est pas pour la... c'est, enfin, je sais pas que ça se fait, mais au moins l'idée... Ouais.
Le micro.
Pour
le micro, le micro.
Ça veut pas.
Bonsoir, c'est juste pour savoir ce que vous pensez des coupeurs de feu. Est-ce que pour vous ça fonctionne vraiment? Est-ce que vous avez déjà conseillé à des patients de faire appel à ces personnes ou pas?
Après, c'est vrai, ce que je dis tout le temps quand on me pose des questions très très difficiles comme ça. Ça c'est sûr que la tout ce qui est, il y a pas des psychiatres dans la salle. tout ce qui est influence psychique, psychiatrique, ça a un effet, que ça soit sur les, bien sûr, sur les douleurs. Là vous avez vu, on a parlé d'aura cytokinique, mais une cellule qui va balancer un peu tous ces facteurs, ça peut être un neurotransmetteur. Mais là, je suis en train de, voilà, d'aller sur un terrain assez, voilà, assez pointu et scientifique à la fois, parce que il va falloir derrière prouver qu'est-ce qu'il a fait que un tel patient a sécrété mais pas l'autre. Quel neurotransmetteur est en jeu et où est-ce qu'il est le récepteur et quel est le facteur qui a été en cause. Voilà. Donc, je ne peux pas.
Bien, s'il n'y a plus de questions... On vous remercie pour votre intervention et je vous invite à la suivante qui va être dans la lignée de la vôtre puisqu'on poursuit avec la peau. Ça sera le 23 mars et cette fois, on a une forme un peu différente, c'est-à-dire qu'on aura un spectacle d'une artiste qui s'appelle Chloé Lavalette qui a travaillé sur l'idée, un peu sur une dystopie, c'est une dystopie, et si on pouvait changer de peau à l'envi, voilà, dans quelle société ça nous projetterait. Et ça sera suivi d'une conférence d'une anthropologue qui s'appelle Christine Berger, qui a beaucoup travaillé sur la peau, le rapport à la peau, les écorchés, etc. Et donc, qui poursuivra en fait cette discussion. Donc, c'est le 23 mars. Je vous invite à réserver, parce qu'on aura le spectacle, il y aura une pause avec un buffet, et ensuite la conférence. Merci à tous. Merci à tous deux. Et aussi, je voulais revenir sur une conférence que nous avions eue avec le professeur De Vauchel, qui a été le premier à faire une greffe du visage. Et donc, ça s'appelle, le titre, c'est L'impossible anatomie visage. Et c'est en ligne. Vous pouvez la retrouver sur le site de l'Espace Mendès France. Je vous remercie pour votre présence. Merci, au revoir.